français facile où que vous soyez sur la planète. Merci à tous. Il était réalisé ce soir par Hélène Avril. À suivre, Radio Foot International.
Radio G.
Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales. Angevine, ce soir on va plonger au cœur du château du Plessis-Bourré pour le spectacle La Belle et la Bête. C'est du 4 mai au 2 juin 2024, c'est au château du Plessis-Bourré. Donc un spectacle immersif, on passe de pièce en pièce avec le plein de sensations garanties. C'est rotatif aussi, hein. Les vagues de spectateurs, spectatrices s'enchaînent, partent en plusieurs vagues du coup. Et c'est un petit mix entre bénévoles et comédiens pros. J'ai eu l'occasion l'année dernière d'aller y assister. Charles Mollet, le metteur en scène, était venu ici dans cette émission pour nous donner un petit aperçu de l'immersion. Il nous avait fait la voix off, puisque c'est lui qui fait la voix off de La Bête, avec sa belle voix radiophonique aussi. Il nous avait plongé au cœur de ce spectacle. On va, avec Claire et Lou, ce soir, tenter de vous immerger de nouveau. Ce sera un petit peu plus tôt, elles nous donneront plus d'infos aussi tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, on va parler IA et photo avec Bruno, qui n'est pas venu tout seul. Il est venu avec Patrice Texier, qui est un photographe connu, je crois, dans le secteur et qui fait de belles photos. Une petite anecdote par rapport à des photos de sportives et de sportifs tout récemment. Sinon, Tonton Albert, c'est la semaine prochaine. Histoire d'un jour, peut-être un Graal et peut-être aussi Circule autrement, puisque Nicolas n'est pas passé finalement là en début de semaine. Mais on va essayer de lui trouver un petit peu de place ce soir. Topette, la dernière de la semaine, c'est parti.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Mais oui, où est Mathéo ? Il est de retour au Flash Info. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à tous.
On commence avec cette actu, le passerail qui débarque cet été.
Toutes les régions de France, dont les Pays de la Loire, sont tombées d'accord hier sur sa mise en place, toutes sauf la région Île-de-France où se dérouleront les Jeux Olympiques. Il s'agit d'une proposition sous forme de passe réservée aux jeunes de moins de 27 ans. Pour 49 euros, ils pourront voyager librement dans toute la France, que ce soit en TER ou en intercité. Gros point noir de cette proposition, la non-inclusion des TGV dans le passe, limitant tout de même la zone de voyage. C'est tout de même 700 000 jeunes qui vont pouvoir en bénéficier. À noter que l'État prendra en charge 80% du coût total. Ce sont les régions qui s'occuperont des 20% restants.
Les collèges de Maine-et-Loire qui continuent leur lutte.
Cette semaine est marquée par des grèves massives dans le secteur de l'éducation pour protester contre la loi du choc des savoirs. Ce jeudi, c'est jour d'opération. La Fédération des conseils de parents d'élèves 49 l'a nommée Collège Mort. Elle est accompagnée d'un slogan, on trie les déchets, pas nos enfants. Un appel a été lancé dans plusieurs établissements du département. Il a été entendu. Au collège Jean Rostand à Trélazé, c'est plus de 550 élèves sur les 600 qui manquaient à l'appel aujourd'hui. Même cas à Angers, au Pont-de-Cé, à Toircé, à Ingrande-sur-Loire et encore à Segré.
Ce week-end, le carré Cointreau ouvre ses portes en musique.
Cette année, Cointreau souffle sa 175e bougie. À l'occasion, les visites du carré Cointreau le samedi auront une saveur toute particulière et unique. En lien avec l'orchestre d'harmonie de la ville d'Angers, Corinne Lava, responsable du carré Cointreau et des événements spéciaux, nous l'explique par téléphone.
Alors, on avait à cœur, pour notre 175e anniversaire, d'offrir une visite encore plus sensorielle qu'elle ne peut l'être habituellement. On a rencontré donc Bruno Chiron, le chef d'orchestre de ce fameux orchestre dont Édouard Cointreau avait été le premier mécène. On a une histoire commune, très liée, qui nous a donné envie de faire des choses ensemble. Et évidemment, il va y avoir du cuivre, hein, ça paraît assez logique, puisque ça fait partie aussi de notre fil conducteur. Et puis surtout, ils vont utiliser des outils qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, à savoir des flacons, des verres, pour certaines petites mélodies. Donc en fait, l'idée, c'est de rythmer la visite dans chacun des espaces avec une petite surprise musicale qui, bien sûr, va faire le lien avec le sujet de cet espace.
Si vous êtes intéressé par ces samedis musicaux, vous pouvez vous rendre sur leur site internet, mais également sur le nôtre où se trouve cet entretien avec Corinne Lava en version allongée dans la rubrique Topette Plus. Le premier samedi musical, c'est ce week-end, le 6 avril.
Un week-end en demi-teinte niveau météo.
Demain, le temps sera très nuageux avec des possibilités d'averses. Les températures iront de 14 à 19 degrés. Le soleil pourrait faire son apparition samedi durant une bonne partie de la journée, mais ne restera pas et le temps de dimanche risque d'être similaire à celui de demain.
Merci beaucoup Mathéo, surtout pour cette opportunité incroyable. J'ai toujours rêvé de dire en demi-teinte en radio. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Allez, sans transition, nos invités de ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Tout à l'heure, on va partir en photo avec Patrice et Bruno, mais avant tout ça, on va partir en sensation. Vraiment, c'est le terme que je retiens pour parler du spectacle de La Belle et la Bête au château du Plessis. Bourré, ce sera à partir du 4 mai jusqu'au 2 juin 2024, bien évidemment. Et pour en parler ce soir avec nous en studio, Lou. Bonsoir Lou.
Bonsoir.
Toi, tu es une des bêtes, et t'es aussi chargée comme, bien évidemment, tu es une des, la belle et la bête, et toi, t'es une des belles sur le spectacle. Tu coaches aussi certains comédiens, comédiennes.
Oui, je coache les nouvelles arrivantes dans le rôle de belle.
Voilà, qui sont plutôt bénévoles aussi.
Oui, voilà. Ils sont des volontaires.
Ça, c'est la petite particularité, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et t'es accompagnée par Claire. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Chargée de production.
C'est ça.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que moi, je suis arrivée chez Polaris pour créer ce projet de La Belle et la Bête. Et donc, c'est moi avec Charles Mollet et l'équipe qui ai mis en place ce nouveau spectacle, La Belle et la Bête, et qui lui a permis de voyager dans plusieurs châteaux. Donc, au château de Maison Lafitte, au château du Plessis-Bourré et au château de Goulaine.
Et on va faire les présentations. Polaris Productions, c'est la boîte de production du coup du spectacle. Charles Mollet, c'est le metteur en scène et fondateur aussi, je crois, de la boîte de prod.
Oui, voilà. Polaris a été fondée par deux associés, Charles Mollet, donc qui est le metteur en scène, et Julie Clergé-Lune, qui est la directrice financière de Polaris.
Et Charles qui fait la voix off, en tout cas l'année dernière c'était comme ça, il fait la voix off de La Bête. Je sais pas si c'est pas un secret, puisque nous il l'a fait en live ici.
Alors il fait pas la voix off de La Bête, il fait certaines voix off du spectacle, mais La Bête c'est vraiment un personnage entier, enfin c'est un humain qui parle et qui parle devant le public. Donc il y a pas de voix off et il y a aucune voix off en tout cas pour les comédiens, c'est juste des voix qui permettent de rentrer dans le spectacle.
Oui voilà, tu fais bien de préciser, c'est le narrateur d'une certaine façon de l'histoire. Parlons du concept déjà pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je sais pas comment ça peut arriver mais peut-être que Patrice et Bruno ne connaissent pas ce spectacle. Lou, La Belle et la Bête, ce spectacle immersif au château du Plessis-Bourré en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la particularité contrairement aux autres formes théâtrales ?
La particularité de ce spectacle et des spectacles Polaris, c'est vraiment d'aller chercher un lieu de patrimoine et d'en faire un écrin pour un spectacle et pour raconter quelque chose. Que ce soit pour un spectacle historique qui raconte une période ou qui se base sur un événement qui s'est passé dans le lieu dans lequel on joue, ou que ce soit lorsqu'on raconte un conte. Donc vraiment, La Belle et la Bête, autour des châteaux dans lesquels ce spectacle a été joué, et notamment au Plessis-Bourré où on jouera au mois de mai, est tourné tout autour de ce château, qui est magnifique, qui est grandiose, et qui permet de mettre en scène ce spectacle de la plus belle des façons. Voilà, je sais pas si Claire, tu veux rajouter quelque chose.
Si, et spectacle immersif, vraiment, parce que c'est un spectacle où vous allez visiter le château tout en étant dans une immersion totale du conte. Donc vous allez passer de pièce en pièce, vous allez avoir 5 minutes de scène dans chaque pièce, et dans chaque pièce, vous allez avoir une immersion spectaculaire parce que vous allez avoir les décors, vous allez avoir les costumes, vous allez avoir la musique et vous allez avoir les scénarios aussi qui vont être dits. Et en fait, en 5 minutes, vous êtes waouh, et après, on passe dans la scène d'après, et c'est là où est l'immersion. Le spectacle dure 1 heure, vous visitez le château, vous suivez un fil rouge, donc le conte de La Belle et la Bête, et vous êtes encore plus en immersion parce que c'est des groupes de 30 à 35 personnes qui sont lancées dans le spectacle toutes les 10 minutes.
Et Claire, elle regarde Patrice. Patrice, tu n'auras plus le choix d'aller voir le spectacle, j'ai l'impression.
Hein, c'est... J'ai envie d'y aller.
Voilà, il a déjà envie d'y aller. Toi, Mathéo, est-ce que tu connaissais ou pas ce type de configuration théâtrale ? Est-ce que tu as bien compris le principe, le concept ?
Oui, à peu près, dans les grandes lignes, on va dire. C'est vrai que non, j'en ai jamais. Enfin, j'imagine que ça existe, forcément. Je pense qu'on passe maintenant, on fait de tout dans le théâtre. Mais non. Et puis moi, je suis pas un énorme consommateur de théâtre, malheureusement, parce que c'est quand même très sympa le théâtre.
Ni de patrimoine, malheureusement.
Ouais, un peu quand même. un peu plus, ouais, franchement. Mais non, je trouve ça très sympa. Donc j'attends d'en savoir plus.
Voilà, il sera, t'es invité aussi. Allez, prendre une petite place pour aller voir le spectacle. D'ailleurs, c'est intéressant, Claire, les personnes qui, comme moi, ont pu profiter du spectacle l'année dernière, est-ce que cette année, on a changé la formule ou est-ce qu'on est sur la formule quasi identique et c'est simplement, on offre la même expérience pour les personnes qui l'ont déjà faite?
Alors, la formule est effectivement différente en termes de prix. Le prix est diminué par rapport à l'année dernière. Et pour les chanceux, prenez vos places. Il reste quelques petites places à 11,99€ sur le premier week-end. Donc ça, c'est le petit plus. Et sinon, le spectacle reste le même en tant que tel. On a juste modifié la première scène du spectacle quand le public rentre dans le château.
Voilà, faut pas spoiler non plus. Attention, on va pas dévoiler l'histoire, même si elle est quand même un petit peu connue, l'histoire de la Belle et la Bête. On évoque peut-être maintenant quand même, Lou, la particularité du spectacle aussi, qui est hybride d'un point de vue comédien-comédienne. On a des comédiens professionnels et des comédiens volontaires, c'est le terme que t'as utilisé tout à l'heure.
Oui, exactement. En fait, Polaris a toujours travaillé avec de nombreux volontaires et sur la production de La Belle et la Bête a pris la décision de faire appel à des comédiens professionnels pour porter les rôles les plus du spectacle, les rôles principaux. Donc le rôle de La Belle et de la Bête sont joués par des comédiens professionnels. Cette année, au Plessis-Bourré, on a décidé d'ouvrir ce casting à des volontaires parce qu'on avait des demandes de volontaires et que on avait aussi un besoin, en termes de production, de faire appel à des volontaires sur ces rôles-là. Et donc, on a trouvé des petites pépites qui sont ravies de pouvoir venir jouer ce rôle-là avec nous, se faire leurs armes sur des rôles principaux pour pouvoir chanter, danser, jouer. Et donc, ce sont des arts sur lesquels j'essaie de les former un maximum parce que moi je connais le rôle, je l'ai beaucoup joué et donc ça me fait plaisir aussi de leur transmettre ce rôle-là qui me tient à cœur. Et donc cette année on a des professionnels qui jouent le rôle de Belle et qui le jouent beaucoup comme des professionnels parce que c'est leur travail, et des volontaires qui viennent s'amuser à prendre ce rôle-là en main aussi et qui sont absolument formidables et qui le jouent deux, trois fois dans la journée, donc ça représente moins d'implication aussi que quelqu'un qui va le jouer toute la journée.
Ça allège un petit peu les rôles professionnels, on va dire, qui sont au cœur du coup du spectacle. En tout cas, faut bien préciser que volontaire, ça n'enlève pas la qualité de la prestation,
non, hein,
parce que
tout.
Vraiment, on fait pas la différence.
Oui. Ah non.
Les et puis on fait en sorte de former aussi ces bénévoles qui s'engagent sur la saison, puisque depuis maintenant février, on forme ces comédiens, on les encadre, ils ont des professeurs de théâtre. Lou comme moi, on forme certains comédiens, certaines scènes, et pareil pour les danseurs ils sont encadrés par notre maître de ballet Carla, qui fait en sorte que, et tout le monde répète toutes les semaines, donc c'est du ni vu ni connu. Quand on arrive au spectacle, on a l'impression d'être devant un spectacle merveilleux.
Et ça, c'est le dernier point justement du spectacle, c'est une aventure humaine en interne, puisque du coup, c'est vraiment pendant des semaines et des semaines, des équipes qui se connaissaient peut-être pas, qui vivent quelque chose ensemble, et qui vont peut-être avoir du mal à se quitter aussi après. C'est quand c'est le 2 juin, la dernière, après le 2 juin, ça va être dur de se quitter pour l'été.
C'est ça.
Pleurer.
C'est ce qu'on voit à chaque spectacle, on a en moyenne 500 jusqu'à 1000 bénévoles pour certains spectacles, et c'est vrai que c'est intense, puisque ça dure 4-5 mois les répétitions, et un mois de spectacle, et c'est vrai qu'on voit au fur et à mesure les liens se tisser, et il y a toujours des anecdotes splendides qui se passent pendant les spectacles. On racontait tout à l'heure à Marie qu'il y avait même eu une demande en mariage à un spectacle à la fin d'un bal, et des amitiés qui se lient qui sont extraordinaires. Et c'est vrai que après on continue à suivre un petit peu l'aventure des bénévoles et on voit qu'ils continuent à se voir et à se retrouver.
Et bah, s'il y a encore d'autres anecdotes, on est preneur. Juste après une pause musicale sur le 101.5 FM, on revient au château du Plessis-Bourré après la mort des amants justement de la houle, et on revient tous ensemble. La mort des amants de la houle sur le 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
C'est marrant, j'ai du mal à croire qu'il soit seulement 18h30 vu toute la lumière qu'il y a dehors. Mais oui, on a changé d'heure et on est toujours là de 18h10 à 19h sur le 101.5 FM pour vous emmener au cœur des agitations locales et culturelles aussi assez souvent. Mathéo, ça va toujours ?
Je me saisis du micro, oui, il était très loin de moi, donc mais oui, ça va toujours, Pierre-Benoît.
La Belle et la Bête, voilà de quoi on parle ce soir. On est avec Lou, une des comédiennes, communication aussi, la communication. C'est-à-dire, tu fais quoi sur la communication du spectacle, Lou, exactement ?
Alors, on s'occupe vraiment beaucoup de la communication dans le sens où l'objectif c'est d'avoir du public qui vient voir toute cette chose qu'on met en place au Plessis-Bourré avec tous les volontaires qui sont sur tous les fronts, qui jouent, qui dansent, qui s'occupent des coulisses. Donc ce travail-là, il faut qu'il soit vu. Et puis aussi pour nous, pour qu'on puisse revenir, pour qu'on puisse construire d'encore plus grandes choses. Et donc on essaie de communiquer autour de ces événements, de faire des tractages, d'aller au contact de la population locale pour leur faire connaître cet événement-là et pour qu'ils sachent qu'il existe et pour qu'ils puissent venir voir tout ça. Claire s'en occupe aussi beaucoup.
Et de venir dans Topette, c'est aussi pour la
voilà,
pour
exactement.
Ça que vous êtes là ce soir. Claire, toi tu es chargée de production du spectacle, hein, je le rappelle. Pour celles et ceux qui arrivent, La Belle et la Bête du 4 mai au 2 juin 2024 au château du Plessis-Bourré, un peu plus tôt à cause des JO, hein, c'est ça. On voulait s'assurer que les gens soient disponibles, je crois, un peu plus tôt dans la saison.
Tout à fait, on s'est dit que c'était le moment des beaux jours et des ponts et qu'il fallait proposer un spectacle pour que le public en juin vienne.
Il sera là, là c'est sûr, parce que vu les bruits, en tout cas les retombées, c'est la troisième édition, tu dis.
C'est la deuxième édition.
Deuxième édition. Ouais. Il y aura une troisième, on est quasiment...
On espère. On ne dit rien, mais on espère.
En tout cas, on l'espère. Alors, tout à l'heure, on parlait de cette hybridation entre comédiens, comédiennes professionnelles et puis du coup des volontaires qui n'enlèvent, on le reprécise, rien à la qualité de la prestation et du spectacle. Comment on s'organise ? Par contre, en termes d'organisation, ça doit être très compliqué, Claire, à gérer tout ça, à faire un... Est-ce que... C'est compliqué de trouver des volontaires, justement, déjà, quand on fait l'appel à projet.
Alors, c'est pas compliqué de trouver des volontaires. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a lancé le spectacle l'année dernière, on a fait une réunion d'information pour expliquer aux gens ce qu'il en était et ce qu'il en découlait de notre projet. Et on a eu plus de 1000 inscrits sur la réunion d'information. Et on prend que 500 bénévoles. Donc, c'est vrai qu'on a eu un engouement énorme. Et c'est vrai que pour nous, ça nous fait toujours chaud au cœur de voir que il y a des gens encore qui s'intéressent à ça et qui s'intéresse aussi au spectacle. Donc on était ravis de recevoir tout ce beau monde. Et cette année, donc pareil, on a toujours 500 bénévoles, un tout petit peu moins, mais on a une très belle communauté de bénévoles. On a en moyenne 60% d'anciens bénévoles et on a une quarantaine de nouveaux bénévoles. Donc c'est vraiment chouette de voir ce nouveau vent arriver dans le spectacle.
Et c'est pas trop, justement, tu parlais, Lou, de celles qui vont prendre le rôle de Belle, non pas de la Bête, mais de la Belle. C'est pas trop, justement, quand on a un quotidien à côté à gérer, de s'impliquer sur plusieurs semaines comme ça, puis après d'endosser ce rôle important quand même pour le spectacle.
Ça pourrait être trop s'il n'y avait pas tout cet engouement qu'il y a autour. En fait, je pense que quand on est porté par un projet comme celui-là et qu'on en rêve à ce point, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus faciles parce qu'on a tellement envie d'apprendre ce texte, d'apprendre cette chanson, de se lancer là-dedans, que tout paraît... plus simple. Alors plus simple ne veut pas dire moins stressant. Forcément, prendre un rôle comme ça qui doit tenir une heure, un public en haleine, ça demande de l'engagement. Mais c'est un engagement qui est fait avec tellement d'amour et d'envie qu'il est allégé tout de suite.
C'est un vrai conte de fées, j'ai l'impression, en fait. Hein.
Tout à fait. Et si je peux rebondir sur Lou, c'est effectivement un engagement, puisque vous devez être là toutes les semaines pour pouvoir répéter, mais on a surtout 500 bénévoles, parce que bien évidemment, les 500 bénévoles ne jouent pas le spectacle pendant les 5 week-ends. On a 500 bénévoles, mais à l'instant T dans le château, vous allez rencontrer 70 comédiens. Et donc, en fait, on va former, par exemple, 6 comédiens sur le même rôle. Et donc, en fait, ces comédiens vont s'alterner tout le temps et vont jouer sur des créneaux assez courts, et pas du tout tous les week-ends, ils vont jouer sur 2 week-ends ou sur 3 week-end.
Et pour en préciser, le jour des représentations, hein, ça s'enchaîne. Hein, y a une vague de spectateurs qui part et du coup, 5-10 minutes après, il y en a une deuxième. Donc en fait, c'est la deuxième vague ne va pas voir les mêmes personnes jouer, mais c'est le
ça.
Même spectacle.
Oui, c'est ça. Va voir le même spectacle. Toutes les 10 minutes, vous avez une entrée de 35 spectateurs. Et effectivement, on joue tout le temps, puisqu'on joue tout le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée. Et là, la particularité, c'est qu'on joue aussi le lundi de Pentecôte. Mais c'est vrai qu'en fait, de 9h à 22h, le spectacle tourne en boucle dans le château.
Patrice, je te vois boire littéralement les paroles de Lou et de Claire depuis tout à l'heure. Peut-être que tu as des questions à propos de ce spectacle, de sa configuration un peu exceptionnelle, hors norme, au cœur du château du Plessis-Bourré, que tu connais, hein, tu as eu l'occasion de faire des photos, je crois, là-bas.
Oui, effectivement, bah, c'est vrai que c'est impressionnant ce fonctionnement en fait de spectacle qui est vraiment original. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie d'y aller.
Il réitère sa demande, j'ai l'impression, Patrice.
On en parlera.
Bon, en tout cas, du 4 mai au 2 juin, il y a largement le temps d'aller prendre ses places. Mais peut-être que là, avril va vite passer aussi. Donc, si on veut commencer à réserver, est-ce que c'est déjà possible ou pas, Claire?
Tout à fait. La billetterie est ouverte et vous pouvez prendre votre place et vous choisissez votre créneau horaire. Donc, vous pouvez y aller de 9h à 22h, comme je vous le disais. Et vous avez des places toutes les demi-heures. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. Tous les week-ends sont ouverts et toutes les jours sont ouverts, en tout cas des week-ends, samedi, dimanche.
Et puisque tout à l'heure on expliquait que le concept des spectacles de Polaris, c'était justement d'aller prendre pour écrin un lieu historique, ça, c'était très important ça, hein. C'est pas juste pour le décor, hein. C'est vraiment aussi pour la charge historique presque émotionnelle qu'il peut y avoir dans le lieu. Si on parle du château du Plessis-Bourré précisément, Lou, je sais pas si tu connais son histoire, peut-être que ou alors en tout cas ce que lui il t'évoque pour toi.
Bah, c'est un château qui est médiéval, donc avec tout le décorum du château médiéval, le pont-levis, les tours, les douves, les hirondelles devant le château le matin qui volent contre la façade, les petits canards qui font leurs petits dans les douves, et donc on voit les petits canetons qui marchent sur les nénuphars, c'est vraiment incroyable. C'est un château qui est gigantesque, magnifique, grandiose, et quand on arrive dans ce château et qu'on se dit je vais passer la journée ici, on se sent incroyablement privilégié d'avoir le droit de vivre des moments pareils dans un lieu pareil, et c'est vraiment une émotion qu'on partage tous dans ce lieu, de la chance qu'on a d'être là, et ça nous lie tous ensemble dans cette joie.
T'es angevine, toi, tu le connaissais, le château?
Non, moi je suis rennaise. Et d'accord. Je connaissais absolument pas ce château, et je l'ai découvert en sachant que j'allais jouer là, et j'en aurais pleuré.
Et waouh! Et il y a d'autres châteaux aussi où le spectacle a lieu, mais ça, c'est en dehors du département, je crois, Claire.
Ouais, au château de Goulaine, donc en Loire-Atlantique, hein, voisin, et au château de Maison Lafitte. Donc là, c'est plus à côté de Paris.
Et t'as un coup de cœur ou pas? Entre nous?
Oui.
Il y a que nous, là.
Oui. C'est le Plessis-Bourré.
Yes. Bon, bah, c'est pas étonnant. On va continuer à en parler tout à l'heure. On redonnera aussi toutes les infos pratiques. Mais avant ça, on va passer en photographie avec Bruno et Patrice qui se préparent, là, qui sont en train de mettre les ISO, quel réglage de 2500. Ok, c'est très bien. On va juste faire un tour par On va où et Sarah qui nous emmène à Vabé ce soir.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Aujourd'hui, je change un peu nos habitudes et je vous emmène en voyage avec moi. Préparez vos tenues d'été, lin froissé, chapeau, travaillez votre accent et votre gestuelle. Je vous embarque dans le lieu de la Dolce Vita, j'ai nommé l'épicerie fine italienne Vabé. À prononcer Vabé et non Vabé, car pour la petite info, Vabé, contraction de Vabene, signifie « ok, ça va » et ce mot est utilisé par tous les Italiens en permanence. Amélie, la fondatrice, petit rayon de soleil et d'énergie, est tombée amoureuse de ce pays lors de ses voyages. Après avoir travaillé à Rome dans une épicerie fine française, et le confinement aidant, elle décide alors de ramener l'Italie à Angers. Pour la création de la boutique, elle s'est inspirée des habitations des Pouilles. Oui, vous savez, ces décors de rêve où nous rêvons toutes de nous marier un jour. Avec des étagères grouillant de produits importés directement de toute l'Italie. Amélie a été rencontrer chacun de ses fournisseurs afin de vous proposer des produits typiques, authentiques et de haute qualité gastronomique. Chez elle, vous retrouverez et découvrirez toutes sortes de produits tels que les pestos, des vinaigres, des pâtes, des gâteaux apéritifs, des biscuits sucrés et autres. Le conseil qu'elle vous procurera est affûté et vous deviendrez très vite accro à tous ces produits, que ce soit en épicerie ou ces charcuteries et fromages à la coupe. Mon produit préféré est d'ailleurs un des plus simples, les frisées lait complets, ces petits croûtons à l'huile d'olive qui sont tellement addictifs. À dipper avec une de ces tartinades à la tomate, à la pistache, à l'aubergine ou encore à l'artichaut. Un régal pour vos apéritifs au soleil. Mais Amélie ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé de ramener également leur mode de vie en vous faisant profiter de l'apéritivo. Ce moment de fin de journée ou de midi que l'on s'accorde pour profiter de la vie autour d'un verre accompagné de ses antipastilles. Vous pouvez donc apprécier ce moment en terrasse ou à l'intérieur avec des cocktails originaux. Le must-have l'Italicus, pour le goût et pour la bouteille que vous transformerez en vase après vous en être délecté. Car c'est l'avantage chez Vabet, si vous appréciez un produit lors de votre apéritivo, vous pouvez l'acheter et le ramener à la maison. Vous pouvez également prendre le temps de vivre à l'italienne tout au long de la journée avec les pauses sucrées et les pauses déjeuner où Amélie confectionne des sandwichs avec ses charcuteries, ses fromages et autres produits frais qu'elle vous propose à l'achat. En résumé, c'est ici un lieu où vous vous sentirez à casa, c'est-à-dire à la maison. Des couleurs chaudes, des citrons, du soleil, de la bonne humeur et des produits incroyables. Et ne vous aventurez pas à lancer Amélie avec un mot en italien. Elle vous répondra à la perfection, tant cette langue est devenue chez elle une seconde nature. Que ce soit pour faire découvrir des produits locaux italiens à vos convives, pour pimper vos recettes de pâtes ou d'apéro, ou pour vivre un moment convivial dans un lieu sublime qui vous fera vivre un moment au cœur des Pouilles, il n'y a qu'une adresse, c'est Vabet. Amici, a presto de Vabet. Allez, Vabet, on se retrouve chez Amélie au 21 rue des Poiliers à Angers ou sur son e-shop du mardi au samedi jusqu'à 20h30. Et pour les bons plans épicerie et resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi.
Bah merci Sarah, je sais pas quoi dire de plus. Tous les podcasts On va où sont disponibles dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Topette continue.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et il est là chaque semaine quasiment pour nous parler de son podcast favori, celui d'Hervé Bazin. Bonsoir Luc. Non, c'est Bruno, Bruno Jousse. Bonsoir Bruno.
Salut.
Tu n'es pas là pour nous parler de on non. fait quoi ce soir, ça ni change, de ouais. Columbo, ni ouais. de quoi que ce soit. Fini l'intelligence artificielle?
Bah si, justement, mais en image.
Ben voilà, en image. Alors on va en parler. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Patrice. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Patrice Texier.
C'est ça.
Voilà, tu es photographe également. Alors toi, tu peut-être un petit peu moins d'intelligence artificielle dans ton travail, voire même pas du tout.
Pour l'instant, pas du tout, oui.
Pas du tout.
Ou vraiment 1%.
Ah oui, voilà. Et ben, on va pouvoir en débattre ensemble. Est-ce que c'est un bon outil? Est-ce qu'il faut le développer? Est-ce qu'il ne faut pas le développer? Ça, ce sera la question. Vous avez peut-être deux pratiques différentes. Toi, Patrice, on peut voir tes clichés, tes magnifiques clichés en ce moment, je crois, boulevard du Raronnet.
Oui.
Sur les grilles de la préfecture.
C'est ça. Sur l'agriculture en ce moment.
Voilà. Et puis, t'as aussi eu l'occasion sur de faire la une du magazine Le Anjou Le Mag.
Oui.
Avec les porteurs de flammes.
Oui.
Voilà. On pourra aussi.
Magazine à sortir la semaine prochaine.
Ah, ça, c'est en avant-première, là?
Oui.
Ah ok, d'accord, bon bah heureusement que c'est pas filmé. On va en parler aussi tout à l'heure. Mais avant tout ça, Bruno, toi tu es venu avec un livre, un book, parce oui. qu'actuellement tu proposes une exposition qui est en ligne pour démontrer un petit peu les pouvoirs, encore une fois, de cet outil merveilleux, qui est merveilleux selon toi, de l'intelligence artificielle pour améliorer tes photos. Et là, yes. on parle pas de retouches ou non. de changement de filtre ou de quoi que ce soit, on parle carrément de création.
Yes.
Peux-tu nous en dire plus?
Alors en fait, alors c'est vrai qu'avec on a vraiment un univers complètement différent parce que moi je reste dans mon studio puis lui il parcourt le monde, donc c'est vraiment deux choses différentes. Et là c'est une exposition, donc c'est des photos qui ont été prises il y a 10 ans, donc une exposition sur l'eau qui a été faite il y a 10 ans. J'ai repris les photos et je les ai mises un peu avec la sauce IA pour pouvoir les retravailler. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben moi je coupais beaucoup les visages, enfin c'était un petit peu la mode, on avait des demi-visages, etc. Et ben quand on veut un petit peu mettre la photo un peu plus grande, on a perdu toutes les informations. Et donc pour mettre une photo portrait en paysage par exemple, c'est impossible si on veut avoir tout le personnage. Et bien maintenant, grâce à l'IA, on y arrive. Donc il va recréer tout l'environnement qui est autour, mais il va pouvoir recréer également les visages, la fin du visage ou la fin du corps. Donc si le visage est coupé au niveau du front ou même à moitié du visage, il va recréer l'autre moitié. Et c'est bluffant parce qu'on a vraiment l'impression que la personne a été prise entièrement alors qu'elle n'a pas été prise.
Alors quand on voit, oui, c'est bluffant, mais on est en radio donc on peut difficilement le prouver. Peut-être que tu peux ouvrir ton livre à une des pages qui a justement été retouchée puis montrer à Lou ou Claire qui peut faire part de ses impressions un petit peu sur...
Alors attendez, on va regarder.
Savoir si c'est...
Oui, alors...
si on voit une différence ou pas, justement. Bon, oui. C'est des photos assez...
C'est des photos des gens sous l'eau, donc effectivement ils sont pas forcément très habillés, mais c'est pas bien grave, ça marche quand même.
Il paraît que c'est un problème d'ailleurs, l'intelligence artificielle a tendance à rhabiller les gens.
Oui, c'est
quand
ça.
Quand ils sont trop dévêtus.
Non, mais c'est vrai, elle est très woke, l'intelligence artificielle maintenant elle veut plus effectivement montrer des corps, donc on est obligé de feinter en fait. On peint le corps entièrement et puis il recrée et après on enlève la peinture qu'on a faite pour pouvoir voir. Bon, on va prendre derrière, c'est aussi bien, c'est aussi mieux si vous voulez décrire ce que vous voyez par rapport à ça. Je donne le micro à côté pour voir.
Ah bah oui, parce que tu as donné le livre à la personne qui n'a pas de micro. Donc alors Lou, ces photos, est-ce que tu vois la nuance entre la partie vraie et la partie reconstituée par intelligence artificielle ou pas sur des modèles que te montre Bruno?
Alors là, c'est vrai que si on m'avait montré ces photos sans me dire qu'il y avait intelligence artificielle, j'y aurais cru complètement. C'est vrai que ça fait très naturel en fait. Ça corrige même... Là, tu lui as demandé de corriger la lumière ou pas du tout, parce que c'est fou quand même.
Ouais. Alors pour la lumière, ça c'est les méthodes classiques de photo. Là, c'est vraiment plus la reconstitution qui est faite autour. C'est pas elle qui a faite au niveau de la lumière. Mais c'est pour dire que donc l'IA ne fait pas que de créer, comme on voit avec Dali, etc., des choses. Ça peut être un outil qui permet non pas de dénaturer une photo, mais qui permet de la compléter ou qui permet de corriger des choses ou de la faire vivre autrement. Et donc c'est assez intéressant à voir. Et donc j'ai fait une exposition là-dessus pour que vous puissiez un petit peu découvrir cette évolution.
Une exposition en ligne qu'on retrouve où et comment si on veut justement voir un peu le rendu là.
Alors
si
c'est expo.5sens.fr, 5 comme le chiffre 5, expo.5sens.fr, c'est gratuit. Puis vous pouvez y aller, vous verrez, vous devrez gratter avec votre souris pour enlever la buée, pour voir toutes les personnes et donc découvrir cette exposition.
Et ben voilà, on va passer du coup, là t'es en studio, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un autre profil de photographe avec toi Patrice, puisque toi t'es plutôt extérieur. Parle-nous un petit peu de ton travail d'une manière générale avant de parler éventuellement de l'exposition ou du travail que tu as pu faire avec les porteurs de flammes en Maine-et-Loire.
Je suis plutôt reporter photographe, c'est-à-dire plutôt vers le journalisme, on va dire. Donc là, on est vraiment sur le vrai, hein, sur le retranscrire la
réalité. Je suis pas sur le vrai, c'est ça.
Pas dit ça. Mais en termes de photos, vraiment, ça s'attachait à la réalité, même s'il y a des projets créatifs qui sont venus plus tard, où là, on est vraiment dans la créativité et c'est aussi un travail créatif avec l'IA, effectivement.
Mais toi, tu le fais en réel, en fait.
Mais je le fais en réel, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un projet qui est en cours, où il y a des sportifs, c'est une exposition à venir sur les Jeux Olympiques, pour le département de Maine-et-Loire. Les sportifs sont mis en situation dans des lieux, non pas de pratique habituelle de leur sport, mais dans des lieux emblématiques du territoire, où ils n'ont pas, on ne les attend pas en fait.
Du canoë-kayak dans l'abbaye de Fontevraud par exemple, c'est ça?
Alors non, le canoë-kayak c'est à Terra Botanica, dans un bassin de nénuphars géants. L'abbaye de Fontevraud c'est des escrimeurs. Là j'ai fait hier les basketteurs à la galerie David d'Angers. Donc des colosses au milieu des colosses.
C'est du spoil, hein, clairement, là, ce que tu fais, parce que c'est en exclusivité.
C'est en exclusivité, d'ailleurs, je vais pas trop en dire.
Oui, il faut peut-être pas trop en dire, mais les sportifs sont photographiés in situ, vraiment.
In situ, voilà, c'est-à-dire que je tiens à faire le maximum mis en scène en réel, c'est-à-dire qu'il y a le moins de Photoshop possible. Ce qui amène à des situations parfois un petit peu compliquées à mettre en place. Mais c'est une approche qui m'appartient et
justement c'est intéressant de voir deux approches différentes du métier au-delà du fait de faire des photos plutôt en extérieur, enfin sur des sites en dehors d'un studio ou en studio, parce que finalement Patrice, ce serait pas plus simple de faire appel à cette intelligence artificielle ou à ces solutions d'outils numériques?
Disons que ce serait une approche différente. Plus simple, je ne sais pas. Je ne sais pas si. L'IA arriverait vraiment à recréer ça.
Arriverait, mais il y aurait plus le charme de la photo. Le problème, c'est que quand la personne voit la photo, elle sait pas tout ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Et elle pourrait penser que c'est de l'IA aussi. Donc nous, on sait que c'est quelque chose de réel, etc. Et maintenant, c'est tellement réel que ça devient compliqué, que le travail est un petit peu dévalorisé, entre guillemets, de tout ce qui est fait. Parce que tu veux même mettre un cheval dans un... T'as mis où, un cheval
dans un musée. Au départ, c'était l'idée, mais finalement, c'est au mystère des femmes.
C'est un peu furieux, hein, je te le dis.
Ouais, l'intelligence artificielle peut peut-être éviter d'abîmer les pièces du musée avec le cheval dans ce cadre-là. En tout cas, deux salles, deux ambiances d'une certaine façon. Et puis, la preuve en est, c'est que l'exposition est en ligne pour l'intelligence artificielle, alors que toi, tes photos sont plutôt en extérieur, Patrice. Hein.
En extérieur et en ligne aussi, hein, puisqu'évidemment, le numérique, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mais c'est vrai que c'est vraiment deux approches différentes qui sont toutes les deux créatives. Donc, après, je pense que de plus en plus, on va se demander si dans l'avenir de la photographie, si effectivement l'image a été faite avec l'IA ou pas. Ça peut être une question qui va se poser de plus en plus.
Oui, ça pourrait devenir un problème. Bruno ?
Ben, c'est surtout qu'en fait là, ce qui au niveau du photographe, c'est le problème, c'est le côté journalistique, puisque lui, c'est ce que tu ramènes. Tu pourras travailler beaucoup avec les ONG, donc tu ramènes des choses réelles qui font ça, donc avec les fake news, voir les vraies photos, etc. Et donc prouver que la photo est vraiment réelle. Voilà, il y a que les photographes qui vont sur le terrain, qui font voir les choses et pour éviter les fake news. Donc ça, il y en a encore besoin de photographes pour ça.
Mmh. Et Patrice, il n'est pas du tout dans les fake news, puisque là, je crois que tu vas faire des longs voyages pour aller faire des reportages photos peut-être par la suite. Mais bon, ça, on va laisser ça caché pour le moment, juste puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Avant de redonner toutes les infos pratiques concernant les expositions dont on a parlé avec vous, Bruno et Patrice, on va rester donc en intelligence artificielle avec le Graal, mais non pas le Graal habituel. C'est une première. Ce soir sur le 100.5 FM, le Graal de l'histoire fait en IA et par Bruno. Tiens, c'est une surprise.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'histoire. Quoi ? Une IA ne peut pas prendre un café ? Mais si, on peut tout faire. Nous sommes en 1791, il y a plus de 230 ans, et c'est vraiment le bordel en France. La Révolution, ça vous dit quelque chose ? Oh bah si, quand même. 1789, la Bastille, tout ça. Là, on est 2 ans plus tard, et c'est l'anarchie. Ça chauffe sérieusement au derrière du roi de l'époque, Louis XVI. Ayant peur, à raison, pour sa vie, il décide de quitter la France. La frontière la plus proche est à 300 km, c'est la Belgique actuelle. Il prévoit de partir seul et léger, mais sa femme veut être du voyage avec leurs 2 enfants. Pour la fuite rapide, on repassera. Surtout que rien ne va se passer comme prévu. Déjà, pour se retrouver au point de départ, Marie-Antoinette se paume dans les jardins des Tuileries. Vous le croyez, ça ? Quand enfin le carrosse sort de Paris, une roue se casse. Les fuyards ont déjà 3 heures de retard. Les gardes avec qui le convoi avait rendez-vous pour être protégés dans la fin du voyage pensent que personne ne viendra et s'en vont. La famille la plus connue de France est donc en fuite. Lors d'une halte pour changer les chevaux, on les reconnaît. Tu m'étonnes. La nouvelle de leur fuite s'était déjà répandue et le couple royal se fait arrêter à quelques kilomètres de la frontière. Retour au point de départ pour leur destin funeste. De quoi en perdre la tête. Oui, fallait bien que je la fasse. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voyez, faites attention aux détails de l'histoire. Ils peuvent être plus importants qu'on pense. À bientôt pour un nouveau Graal de l'histoire.
Waouh, Bruno, l'amoureux de l'intelligence artificielle, le Graal, Columbo, vous pouvez en trouver tout ça dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Allez, on quitte l'intelligence artificielle pour retrouver de l'humain, voilà, du reportage de terrain avec Circule Autrement qu'on diffuse enfin avec toi, Nico, qui t'intéresse ce soir à quelqu'un qui se déplace uniquement en transport en commun.
Marre de l'auto ? Circule Autrement avec Nico dans Topette.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous nos auditeurs. Alors Circule Autrement au format 6 minutes ce soir. On continue de parler des transports en commun suite à la précédente chronique et cette fois, je vous emmène dans l'expérience d'un voyageur quotidien au cœur de notre réseau de bus et de tram d'Angers. On va voir si c'est aussi pénible que ça, ou bien au contraire, si c'est l'extase. Et vous allez découvrir ce qui se passe dans la vie d'une voyageuse, plus précisément, car j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Margot. Bonjour Margot.
Bonjour.
Alors Margot, tu as 22 ans, tu es originaire de Valette, près de Nantes. Tu es actuellement en alternance dans la communication dans le secteur de l'automobile sur Angers. Et toi Margot, tu m'as raconté que tu prenais les transports en commun et que c'était ton mode de déplacement quotidien depuis plusieurs années. Alors j'ai eu envie de t'inviter pour que tu partages avec nous et les auditeurs ton expérience. Donc Margot, j'ai une question que tout le monde se pose. Pourquoi tu prends le bus ?
Alors je prends le bus et le tram tous les matins parce que pour moi c'est une facilité, au moins c'est le confort, au moins je ne me prends pas les bouchons tous les matins pour venir au travail.
D'accord, donc les bouchons en automobile tu veux dire ?
C'est ça.
D'accord, ouais. Est-ce que tu as le permis et une voiture Margot ?
Oui, les deux.
D'accord, donc c'est vraiment un choix.
Oui.
Pratique. Quelle distance fait ton trajet habituel ?
À peu près 5 ou 6 kilomètres.
5 ou 6 kilomètres, et oui. Tu mets combien de temps en bus ?
35 minutes.
35 minutes. Et en voiture, tu sais quelle différence tu aurais ?
15,
oui. Ouais. Donc tu prends du temps pour te déplacer autrement.
C'est ça.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton trajet quotidien de porte à porte ?
Oui, bien sûr. Alors du coup, je prends le tram tout d'abord à Élysée, quartier Belle-Beille. Puis après, je me rends à Foch, à Arras, pour prendre le bus 3, direction Delattre.
D'accord. Donc tu fais tram et bus.
C'est ça.
Ok. Alors, est-ce que tu préfères l'un ou l'autre ou pas de préférence ?
Le tram. Je préfère le tram.
Pourquoi tu préfères le tram ?
C'est plus confort. Le transport est plus rapide. Donc, je préfère le tram, ouais.
Et est-ce que tu vois un aspect touristique à prendre le tram ? Voilà, on a des ponts au-dessus de la Maine. Est-ce que toi, t'es sensible à ça, peut-être, le paysage sur ton trajet ?
C'est vrai que le cadre est plus joli en tram. C'est vrai qu'on passe sur des ponts, enfin, on voit Angers, le centre-ville, et c'est beaucoup plus joli, je trouve.
Ok, et est-ce que tu verrais tu nous parlais des avantages concernant le fait de prendre les transports en commun, comme le gain de temps sur les bouchons, des choses comme ça. Est-ce que tu vois aussi des inconvénients ?
Oui, parfois, on a des moments d'insécurité dans les transports en commun, mais pour l'instant, c'est rare pour moi.
D'accord. Alors là, c'est sur Angers. Est-ce que tu as des expériences de transport en commun dans d'autres villes ?
Oui, notamment Lille.
Lille, d'accord. Et quelle différence tu pourrais nous donner ?
Bah, déjà, il y a plus de transports en commun sur Lille, parce que c'est une plus grande ville. On a le métro en plus. Mais, et puis, la fréquence des transports en commun sont plus conséquents à Lille.
Ok, alors par rapport à cette fréquence de transport en commun et la récurrence des bus, est-ce que tu trouves que sur Angers le service est complet, tant dans le nombre de bus par jour, l'amplitude horaire, les places, le nombre d'arrêts, est-ce que tu t'y retrouves ?
Alors plus pour la fréquence 15 minutes, je crois, toutes les 15 minutes des bus et des trams, en journée ça va, c'est faisable, mais c'est vrai que par exemple de nuit, c'est plus compliqué, par exemple quand on sort, ou parce que le tram s'arrête à minuit... Après, il y a des bus de nuit, mais c'est pas toujours bien respecté.
Ouais, voilà. Donc, rentrer avec le dernier tram ou le dernier bus. Ouais, sinon, après, oui. C'est vrai que ça fait un peu plus long. Concernant ta façon de déplacer, là, on parle d'un trajet quotidien en semaine. Est-ce que le week-end aussi, tu prends le bus pour te déplacer, ou est-ce que tu remplaces par la voiture?
Quand je me déplace dans le centre, oui, je prends les transports en commun, mais sinon, non, je prends la voiture.
J'ai une toute petite question, Nicolas, si je peux me permettre. Le vélo, ça te plaît pas, du coup?
Alors, le vélo en ville, ça me fait un petit peu peur avec tout ce qui est trafic routier. Je m'y sentirais pas à l'aise, je pense. Donc, c'est pour ça que je prends pas le vélo.
Ok, bon, après, c'est une habitude à prendre, hein, vraiment. C'est comme tout, même celui qui débute à prendre le bus, faut prendre ses repères et se roder, s'habituer. Et c'est pareil pour le vélo. On n'est pas plus exposé aux accidents de la circulation dans les deux cas. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux et celles qui veulent se mettre à prendre le bus et les transports en commun ?
Oui, parce que du coup, c'est un gain de temps, c'est un moment aussi de pouvoir se divertir pendant les transports en commun. Au moins, on n'est pas stressé.
Quelles sont tes occupations d'ailleurs quand tu prends le tram ou le bus ? Est-ce que tu rêvasses ? Est-ce que tu fais la sieste ? Est-ce que tu es sur ton téléphone ?
Il y a un peu de tout. Parfois, je suis sur mon téléphone à regarder les réseaux sociaux, ou alors je regarde un peu ce qui se passe autour de moi, enfin, le décor, quoi.
Est-ce que tu as des interactions avec les gens ? Est-ce que ça t'arrive de discuter avec ton voisin de siège ?
Très peu.
Ouais, bon, les gens sont un petit peu fermés, c'est vrai, dans les transports en commun, mais pas toujours. Voilà, bah écoute, merci Margot pour ton récit de voyage quotidien au cœur de notre réseau angevin de transports en commun. J'espère que les angevins ont apprécié et que ça leur a donné envie de prendre le bus. Je le rappelle, Margot, tu as 22 ans, tu es étudiante en alternance dans la communication sur Angers. Et toi, Margot, tu prends le bus tous les jours, même si tu as le permis, car tu habites en ville. Et c'est important pour toi. Et c'est tout ce qu'on aime dans Topette. Alors on est ravis de savoir que toi aussi, tu circules autrement.
Eh ben merci Margot, merci Mathieu, non tu t'appelles Nicolas toujours. On te retrouve mardi, non pas le prochain, mais dans deux semaines. Le bus, ça te connaît bien toi Mathéo hein.
Je vais le prendre pour rentrer là.
C'est vrai ?
Oui, oui.
Les galères du quotidien ?
Non, le bus, moi je trouve que ça va sur Angers, on est bien lotis.
Ouais, c'est un choix ?
Oui, c'est un choix.
T'es sûr que c'est un moitié choix ? C'est un moitié choix, c'est qu'il doit passer le code en ce moment. Mais bon, ça c'est un autre débat, un autre sujet principal de la soirée. Enfin, un de nos sujets principaux de la soirée, c'était... Le spectacle de La Belle et la Bête du 2 ou du 4, du 2 mai au 4 juin, ou peut-être l'inverse, je sais plus, Lou.
Du 4 mai au 2 juin.
4 mai au 2 juin au château du Plessis-Bourré. Quels sont les éléments importants, les informations essentielles à retenir, Lou, Claire, qui était avec nous ?
Première information importante, c'est que vous allez passer le meilleur moment de votre mois de mai au château du Plessis-Bourré. Alors n'hésitez pas à prendre votre place. Les places sont en ligne sur notre site de billetterie. Donc vous tapez La Belle et la Bête, Plessis-Bourré, réservation ou place, et vous tomberez sur le bon site et ce sera trop trop bien. On sera ravis de vous recevoir au château du Plessis-Bourré.
Et ouais, la deuxième information, c'est venez avec vos amis, venez avec vos enfants, venez avec vos collègues, venez le plus possible parce que plus on est de fous, plus on rit.
Et venez dès maintenant aussi vous inscrire pour être volontaire pour l'année prochaine, parce que j'imagine que les demandes vont affluer. Il y en avait 1000 pour 500 seulement pour cette édition, on aura peut-être encore plus l'année prochaine, Claire.
Oui, tout à fait, mais chaque chose en son temps. En premier, nous vendons les places et à la fin du spectacle, on fera les réinscriptions pour l'année d'après.
C'est ça, en tout cas, que vous soyez spectateur, spectatrice ou impliqué au cœur de l'organisation d'événements, c'est magique, dans tous les cas, immersif, garanti. Voilà, ça a été testé par la rédaction de Topette, donc on valide. Merci beaucoup Claire d'être passée ce soir, merci aussi Lou qui chantera, merci. Qui sera une des belles, peut-être un petit exemple de...
Non, bah non,
comme ça à froid, ça fait bizarre. En plus, il reste que 2 minutes. On
avec
plutôt...
la musique préparée, peut-être, mais là, tout de suite, maintenant, je ne suis pas sûre.
Non,
je reviendrai.
C'est un travail, il faut se préparer, bien évidemment. On va plutôt profiter du peu de temps qui nous reste pour redonner la parole à Patrice et à Bruno concernant les photos. Alors, toi, Patrice, où est-ce qu'on peut admirer ton travail ?
Alors, j'ai un site internet qui s'appelle Noos Production, noos-production.com.
Voilà, avec du reportage. Hein. Là, c'est pas l'IA qui est en post-prod, c'est plutôt tes méninges en avant, du coup, pour faire la mise en scène, c'est ça hein.
C'est ça.
Et tu as une spécialité, toi, que tu aimes, que tu affectionnes tout particulièrement, prendre en photo ?
Alors, ce que j'affectionne le plus, c'est effectivement le reportage notamment pour les ONG à l'étranger. C'est pour ça que je vais aller bientôt prospecter en Asie. Mais c'est vrai qu'aussi les projets créatifs, comme on en a parlé à l'instant, c'est vraiment très très intéressant.
Voilà, et pour le truc essentiel et marquant, c'est quand même que tu as pris en photo les porteurs de la flamme olympique du 49. Voilà, c'est
tout à fait.
Toutes les photos que vous verrez d'eux, d'elle et d'eux.
Du département.
Du département, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Patrice.
Merci à vous.
Bruno, bah voilà, il te reste 40. Même pas, 20 secondes pour vous reparler de Expo.
Expo.500.fr, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et puis vous découvrirez les avantages de l'IA, comment on a réussi à recréer les images.
Voilà, dans mon tiroir, on fait quoi ? C'est mardi, dans deux semaines aussi, sur le 100.5FM à 19h. Mathéo, je te vois prendre le micro, on se voit lundi à 18h10 avec ta belle voix et ma belle voix retrouvée, j'espère aussi.
J'espère, bah oui, parce que ça nous manque.
Topette.
100.5 FM.